Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et à mes côtés, évidemment, il va me suivre pendant un mois. Il est indécrottable, c'est comme le chewing-gum collé à la chaussure. On veut l'enlever, mais on a beau tirer, il revient toujours.
Comme N'Golo Kanté.
Le N'Golo Kanté du FC Stream Team. Il est petit, il est gentil. Je ne sais pas en revanche si tu aurais humilié Léo Messi comme il l'a fait. Maxime Dupuis, messieurs, dames, pour vous servir. Comment ça va, Max ?
Ben Martin, ça va bien, on est pas mal. On est dans la fan zone de Budapest avec derrière nous un petit match de football entre jeunes gens qui tapent des. Le petit, il y a un petit dans les buts qui est pas mal du tout, qui a failli mettre une lucarne tout à l'heure. Donc on est plutôt pas mal. Voilà, il y a le match au loin. On a en plus Danemark-Belgique actuellement. Donc on est plutôt pas mal. Et on est surtout content de vous retrouver pour, comme d'habitude, parler de trois sujets aujourd'hui. Et évidemment, en fin d'émission, la minute MPP où, spoiler, je suis en train de. Voilà quoi.
Bon, ouais. Bon, t'es en train de rien du tout.
On en parlera tout à l'heure. J'ai un bon résultat aujourd'hui.
T'as eu un bon résultat, c'est vrai. Et tu veux une médaille ?
C'est déjà plus que toi.
Tu veux une médaille, ok, très bien. Donc bienvenue à tous, on est à Budapest. Fan zone, comme tu disais, Maxime, il n'y a pas un monde fou, hein. On ne va pas se raconter l'histoire, c'est
non.
Pas la folie.
Ouais, a priori, il y a du monde. Alors on a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des fois, il y a du monde ? Ils ont dit oui pendant les matchs de Hongrie. Le problème, c'est que nous, la Hongrie, on sera au stade pour Hongrie-France, évidemment, et France-Portugal, puisque la Hongrie jouera l'Allemagne. Donc, a priori, on ne verra jamais beaucoup de monde ici.
Jamais.
C'est dommage.
Hongrie-France, justement, c'est dans deux jours et on va en parler. On va faire trois sujets, Maxime, pour cette émission. Je te laisse démarrer par le premier sujet.
Ben, on va démarrer par le rayon de ciel bleu qui est total sur cette équipe de France depuis le début de la préparation et depuis ce début d'Euro. Et on va vous le dire franchement, nous, les journalistes, on a parfois besoin de petites histoires un peu dissonantes pour raconter autre chose. Et ben là, tout va désespérément bien. Enfin, non, désespérément, c'est pas le terme, mais tout va hyper bien. Et dans l'histoire des Bleus, récente ou moins récente, c'est quand même assez rare. On vous en parlera juste après.
Deuxième sujet, on parlera de ceux qui ne sont pas rentrés. On pense à Olivier Giroud, on pense à Kingsley Coman. On pense même à Tolisso et Dembélé qui ont joué des bouts, mais c'est même pas un bout de match, c'est une miette de match face à l'Allemagne. Est-ce que c'est tenable pour ces joueurs-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion à un moment si Didier Deschamps continue de maintenir aveuglément sa confiance dans ce groupe ? Voilà, ce sera notre deuxième sujet. On terminera, Maxime, avec…
Ouais, un autre élément du jeu bleu qui va très bien, dont on a parlé sans en parler, parce qu'on a beaucoup parlé du replacement, de la discipline, mais finalement, c'est les quatre de derrière, plus Lloris, qui, pour l'instant, tiennent la route assez bien et assez tranquillement. Donc, on va faire un focus là-dessus, et notamment sur Hugo Lloris, qui est rentré dans l'histoire des Bleus, on va dire. Il a la 10e période d'invincibilité la plus haute de l'histoire du football français, avec 483 minutes. Donc, on essaiera de décrypter un peu tout ce que fait très bien la défense bleue depuis le début de l'Euro.
On terminera avec la fessée de Maxime. On va arrêter d'appeler ça la minute MPP. On va appeler ça la fessée de Maxime. Donc, ce sera tous les pronos foireux de Maxime Dupuis en fin d'émission pour ce qui concerne donc les matchs de vendredi.
De vendredi, exactement.
Voilà, parce qu'on s'y perd un petit peu entre les jours.
Je ne sais plus quel jour on est, vraiment.
Jeudi, Maxime. Voilà, jeudi. Tu sais, c'est le jour de tes gouttes.
J'ai cru que le match France-Hongrie était dimanche. Donc un peu de plus, si je veux pointer au stade un jour trop tard.
Il est perdu.
Je vais être perdu.
Allez Maxime, on compte quand même sur ton expertise. C'est peut-être ton dernier FC Stream Team. Du coup là, en plus, il a deux doigts de choper une insolation.
Bah, c'est FC Insolation.
Maxime, le premier sujet de cette émission, tout va bien pour l'équipe de France. Victoire face à l'Allemagne. Tous les joueurs sont plutôt en pleine position. Alors moi, on a parlé d'Antoine Griezmann hier, mais honnêtement, ça va plutôt pas mal. L'Europe entière qui fait de l'équipe de France le super favori de ce tournoi, on va se rendre compte, Maxime, que finalement, c'est assez rare dans l'histoire des Bleus qu'après un match comme ça, toutes les planètes soient déjà alignées.
Ouais, la sérénité, elle est assez exceptionnelle. On l'a vu depuis le début de la préparation. Et en plus, ça a commencé, il faut le rappeler, par la liste. Et la liste, dans la liste, il y avait Benzema. Donc on l'a dit, c'était formidable de rappeler Benzema, mais il y avait quand même le risque au niveau de cette équipe, de l'ADN et tout ça.
Et c'est passé comme une lettre
et
à la poste.
Tout s'est passé comme une lettre à la poste, tout a bien pris, tout s'est bien passé. Il y a la petite histoire du pénalty, il y a eu Mbappé et Giroud, mais voilà, c'est effacé, comme si ce groupe était beaucoup plus fort que ces individualités qui sont pourtant déjà exceptionnelles. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette équipe. Et évidemment, il faut en parler, c'est aussi grâce à Didier Deschamps, qui est le ciment de ce collectif. Et qui impose assez. Quand vous voyez Didier Deschamps, quand vous lui parlez, vous vous rendez compte que il est taquin, Didier Deschamps. Il est pas.
Chambreur.
Il est chambreur. C'est pas un monolithe. C'est pas quelqu'un. C'est pas du marbre contre lequel vous cognez. Non, mais il a vraiment la distanciation juste par rapport à ses joueurs et par rapport à son groupe. Et ça, on le ressent tous les jours depuis le début parce que tout se passe très bien. Encore une fois, on peut remonter dans l'histoire de l'équipe de France récente, moins récente. Souvenez-vous, l'avant-mondial 98, le premier titre des Bleus, évidemment, la défiance envers Jacquet, la liste des 28, des 22 en dessous. Ensuite, 2002, ce n'était pas terrible. 2004, ça allait à peu près, même s'il y avait des petites bisbilles avec le capitanat de Saï.
2006.
Alors, 2006, c'était un leurre. Parce que 2006, ça commence bien, ils gagnent en prépa. Et puis, c'est derrière, après le premier match, que ça pose problème. Et bon, on ne va pas parler de 2010 et 2008, évidemment.
Et même sous l'ère Deschamps,
ouais.
On ne peut pas dire que ce soit un grand soleil. Alors, 2014, oui, ça se passe pas mal. On sent un élan derrière les Bleus, mais il y a eu 2012 et 2010. Donc, il y a de la vigilance.
Ouais.
En fait, il y a de l'hyper-vigilance en 2014. 2016, il faut se souvenir que la Roumanie, tu les bats au dernier moment grâce à un but de Payet, qu'il y a une vraie inquiétude concernant Paul Pogba et Antoine Griezmann qui sont censés être les deux leaders de cette équipe de France et qui ne mettent pas un pied devant l'autre pendant ce premier match. Et même chose en 2018 avec l'Australie, on a un copier-coller avec un Pogba aussi qui démarre moyennement malgré son but,
ouais.
Et un Griezmann malgré son but lui aussi, bah, qui est déjà aussi dans l'œil du cyclone. Donc on a deux joueurs, les deux leaders bah, qui sont en petite difficulté. Le deuxième match d'ailleurs ne va pas franchement les remettre dans le bain. Mais c'est la première fois, même sous Didier Deschamps, que cette équipe de France aborde son deuxième match avec autant de facilité, autant de tranquillité, autant de sérénité. Et on l'a vu dans la conférence de presse ouais. De Lucas Hernandez aujourd'hui. Ah, il déballe ça tranquillement. Il n'y a pas de question piège parce qu'il n'y a pas d'angle, j'allais dire d'attaque, mais il n'y a pas d'aspérité.
Exactement.
Il n'y a aucune aspérité dans cette équipe de France. Il y en a eu pendant la préparation. On t'a parlé de Giroud Mbappé, de Mbappé Griezmann. Mais voilà, ça c'est la victoire en Allemagne a tout effacé.
Et en plus, non mais la victoire a tout effacé. Au-delà de ça, on sent que même comme tu dis, les aspérités, il y a des questions un peu poil à gratter. Ça arrive, voilà, de demander des trucs. Mais tout l'or glisse dessus. On sent que le cuir, il est épais, il est étanche, et tout glisse sur tout le monde. Et Lucas Hernandez, c'est exactement cet exemple-là. Il a le sourire, la banane de A à Z, et on sent qu'ils sont dans une période où ils ont. Moi, ça me fait penser beaucoup, encore une fois, alors on verra à la fin comment ça se passera, à l'Euro 2000, où les joueurs sont dans une confiance absolue, où on a l'impression qu'ils n'ont pas encore basculé du mauvais côté, ce qui finira par arriver en 2002. Et on sent que s'il y a un problème qu'on signale, ils vont nous dire « Non, non, mais il n'y a pas de problème, justement. Il n'y a aucun problème. Tout va très bien, parce que de toute façon, les résultats vont dans ce sens-là. » Et puis sur le terrain, c'est évidemment pas parfait, mais pas loin.
Et je dirais qu'il y a deux symboles de cette union absolue. C'est Adrien Rabiot et Karim Benzema. Adrien Rabiot et Karim Benzema, si on nous avait dit il y a un an qu'ils reviendraient en équipe de France, personne ne l'aurait cru, encore moins Maxime. Ça, c'était une certitude. Ils sont revenus tranquillement et ils se sont intégrés. Alors, il y a deux choses. Ils se sont déjà intégrés dans l'équipe. C'est comme s'ils faisaient partie des meubles. Parmi les champions du monde, non seulement ils ne dépareillent pas, mais en plus, ils apportent un petit quelque chose en plus. Et la communication, le rapport avec la presse, parce que…
Ouais.
Deschamps a pris un risque en les reprenant tous les deux. Ces deux hommes, quand même, qui, par le passé, avaient eu des soucis avec l'équipe de France et Didier Deschamps. Et bien, tout s'est passé aussi naturellement. Didier Deschamps, il est très fort, il maîtrise tout, et notamment la communication. Je pense qu'ils auraient dû bosser ça aussi. Comment faire revenir Rabiot et Benzema sans faire de vagues. Et on voit que ça se passe très, très bien. Et ce premier match, il est intéressant parce que ces deux-là, ils se sont intégrés sur le terrain. Ils sont intégrés dans le groupe. On les voit aussi, hein. Benzema est tout le temps fourré avec Kylian Mbappé, avec le groupe Mbappé. Rabiot, pareil, il est tout le temps avec Kimpembe. Enfin, voilà, ça se marre. Ils sont très intégrés aussi sur les stories équipe de France, dans tout ce qui est comme équipe de France. Et ça marche. Et finalement, c'est comme si ces deux-là faisaient partie des meubles, alors que potentiellement, eux aussi, c'était deux gros problèmes, leur retour.
Oui, ça dit long de la force, encore une fois, du groupe qui est construit par Didier Deschamps. On va en parler
tu peux
après.
Faire revenir n'importe qui, là.
On va en parler même la après casette, avec les coiffeurs. Voilà, c'est que… Je ne sais pas si c'est simple de s'intégrer dans ce groupe-là, parce que justement, il y a quelque chose de fort qui s'est créé. Mais si vous le faites bien, tout se passe extrêmement bien. Voilà, on le voit très bien. Tu l'as dit, Karim Benzema, en conférence de presse. Alors, Benzema, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a 5 ans et demi. Donc, il a pris en maturité. Peut-être que lui, il s'est dit aussi que c'était dommage de peut-être de gâcher la fin par un petit écart de com, etc. Et de revenir dans cette équipe-là, c'était un formidable cadeau aussi qui faisait, j'allais dire, aux Bleus, parce qu'il y a son talent, mais que les Bleus et que Deschamps lui faisaient aussi le mettre dans cette équipe-là, parce que des équipes comme ça, il n'en a pas connu des masses où ça se passait aussi bien. Adrien Rabiot, c'est pareil, il a fallu laisser passer de couler de l'eau sous les ponts, il est revenu, et voilà, ça ne bouge pas. Il y a même eu une question en préparation, justement, sur l'histoire de ces déclarations en Bulgarie. Souvenez-vous, ça avait posé un peu de problème, quand il avait dit, en gros, je n'étais pas chauffé, j'avais peur de me blesser. Et bien là, il aurait pu mal le prendre, parce que c'est quelqu'un qui est assez fier aussi, mais on sent que dans ce groupe-là, bah, finalement, ils disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'il vaut autant se rentrer dans ce moule-là parce qu'il y a tellement de belles choses à faire avec cette équipe que ce serait dommage de gâcher pour des choses comme ça.
Alors, il y a quand même un problème, Maxime, qui a soulevé ce premier match, c'est que Deschamps a très peu fait tourner.
Ouais.
Il a une équipe type comme il l'avait en Russie. Elle était très claire, les contours sont très nets et ce n'est pas sûr que ça bouge beaucoup. Donc, on a 11 joueurs et derrière, on en a 15 qui savent qu'ils ne joueront soit pas, soit très peu. Et ce premier match face à l'Allemagne, en dépit du fait qu'il y ait quand même 5 changements possibles.
Ouais.
Donc, on peut se dire qu'avec 5 changements possibles, on peut donner à manger un petit peu à tout le monde. Eh bien non, Didier Deschamps a attendu combien? La 87e minute
87e ou 88e.
88e minute pour faire rentrer Coco Tolisso. Dembélé est rentré aussi. Ils ont joué donc 5 minutes chacun. Giroud, avec le statut qu'il a, Giroud n'a pas joué une seconde du premier match de 7 euros. Kingsley Coman, vainqueur de la Ligue des Champions, titulaire Bayern Munich, n'a pas joué une seconde. Et la question qu'on peut se poser, Maxime, c'est est-ce qu'à terme, ça ne va pas poser un problème, même s'il y a cette notion de groupe, est-ce qu'à terme, on ne va pas avoir une liste de 26 scindée en deux?
Alors, première chose déjà, historiquement, une Coupe du Monde ou un Euro se gagne, on dit toujours à 23 ou là à 26, voire à 22 avant, mais en vrai, ça se gagne à 15.
À 15
C'est toujours à peu près les mêmes remplacements, c'est toujours à peu près les mêmes qui rentrent, c'est connu. Regarde, tu prends l'exemple de Fekir en 2018. Voilà, Griezmann sortait, c'était Fekir qui rentrait.
Et si je peux rajouter quelque chose, ils ont été en finale de l'Euro 2016. Ils ont gagné la Coupe du Monde avec un apport, non pas limité, mais quasiment nul des remplaçants.
Voilà.
Et les matchs des coiffeurs, à chaque fois…
J'allais venir.
Ah bah, excuse-moi, mais…
Non.
Vous voyez qu'on ne se concerte pas avec Maxime,
on se concerte.
C'est que de l'impro.
Donc, ça joue à 14 à 15, en gros, une Coupe du Monde ou un Euro. Donc, un Euro, c'est pareil. Et comme tu l'as dit, l'équipe de France des coiffeurs, ce n'était pas la folie. Souvenez-vous de vous, cette purge de Moscou, de ce match à Moscou, France-Danemark, où justement, c'est le moment où les coiffeurs ont une chance de faire bouger les choses. On sait que Griezmann n'était pas très bon. Alors évidemment, il y avait quand même une distance avant Griezmann sort du 11. Mais quand même, imaginez que Fekir mette un triplé contre le Danemark, ce serait posé la question, ou ça aurait peut-être aussi fait bouger un peu les lignes. Or, ce jour-là, ils n'ont pas été bons. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est très intéressant, la gestion de groupe de Deschamps et de Guy Stéphane, d'ailleurs, il faut le rappeler. C'est qu'ils ont compris qu'il y avait 11 joueurs qui partaient devant les autres et que ce serait inamovible à peu près jusqu'à la finale, hors blessure, hors suspension, ce qui était le cas en quart de finale de match fini. Ils ont commencé à resserrer les lignes sur les titulaires, à faire des speeches avec les titulaires, sans laisser de côté les remplaçants. Et la grande force de Deschamps et de ces joueurs-là, parce qu'il faut leur rendre ce mérite-là, c'est d'être toujours resté dans l'esprit. Et je serais étonné quand même que, même si ça ait bougé, que ça change beaucoup, parce qu'on fait le lien avec le premier sujet, où on expliquait que Benzema, Rabiot sont rentrés dans ce groupe-là à merveille, ils sont titulaires, c'est plus facile, mais n'empêche qu'il y a quelque chose de sain dans ce groupe. Ce matin, quand Lucas Hernandez dit « le groupe vit bien », on ne peut jamais s'empêcher de sourire, parce que c'est le principe absolu. N'empêche que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que le groupe vit bien.
Et il dit qu'on n'est pas 11, on est un groupe.
Bon,
le seul point d'inquiétude que j'ai peut-être, c'est la gestion du cas Giroud quand même, parce qu'on sait que Giroud, il a du mal à masquer quand il est frustré, il a du mal à masquer ce qu'il pense réellement. Et qu'aujourd'hui, vu son statut, vu ses statistiques en équipe de France, c'est peut-être le seul qui peut être un petit peu frustré. Coman, ça n'a jamais été vraiment un 11, ça a été toujours le 12e homme. Dembélé, un petit peu pareil. Dembélé, c'est un peu miraculeux qu'il soit là. Rappelons que si l'Euro s'était joué l'an passé, il ne l'aurait pas fait. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui sont, on va dire, des bons camarades. Je pense à Zuma, je pense à Sissoko, Thuram, je pense à tous ces joueurs-là. Mon unique interrogation, elle concerne Olivier Giroud. Je pense que si on ne lui donne pas une minute de jeu avant les huitièmes de finale, peut-être qu'au bout d'un moment, il commencera à tirer à la tronche. Même si c'est quelqu'un de très bien élevé, qui a conscience que ce que Benzema apporte aussi, je pense que peut-être qu'à un moment, Giroud va se dire…
Mais je pense que déjà contre la Hongrie…
Et Deschamps, je pense, va le gérer.
Ouais. Et je pense déjà que contre la Hongrie, ça pourrait le faire parce que ça va être a priori un scénario qui ne va pas ressembler trop à celui de France-Allemagne, où il y aura peut-être besoin d'avoir un peu de poids dans la surface et peut-être qu'à un moment, on sera bien content de l'avoir. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que Giroud, alors évidemment, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais hier, on a assisté à l'entraînement des Bleus, la petite opposition, et Giroud, il en a vendangé un petit paquet quand même. Et c'est vrai que, alors, on peut pas tirer de conclusion là-dessus, mais c'est vrai de se dire, bah, peut-être que quand vous avez moins la confiance, vous ne jouez pas. Eh ben,
Après, il est habitué, lui.
Ça va moins bien. Voilà, au moins il est habitué. Mais je pense que oui, mais il est habitué à Chelsea. Est-ce qu'il est habitué en équipe de France? Beaucoup moins. Et on sait le background qu'il y a. On sait aussi sa rivalité, entre guillemets, latente avec Benzema et le fait que, bah, il avait évidemment envie de se jouer 7 euros. Voilà.
On passe au dernier sujet, Maxime?
Je pense qu'on peut y aller.
On passe au dernier sujet et la défense de l'équipe de France. On n'avait pas des inquiétudes, mais malgré tout, quand on prend le 5, alors Lloris évidemment intouchable, Varane sa saison au Real, allez, on va dire moyenne, Kimpembe, bon, sans être exceptionnel, Pavard en équipe de France, il y avait quand même, il y avait toujours une petite résistance, et Lucas Hernandez au Bayern Munich, eh ben, il n'a toujours pas trouvé sa plénitude, en tout cas, hein, du côté de la Bavière. Résultat, ça fait 5 matchs. Que les Bleus, c'est ça, 5 matchs que les Bleus n'ont plus encaissé le moindre but. 5 matchs, Hugo Lloris s'est très peu mis à contribution, ce qui signifie aussi, ce qui dit aussi la solidité de ces 5-là. Alors, on ne peut pas dissocier évidemment Conte, Rabiot et Pogba et même devant. Et Maxime, on parlait beaucoup des 3 de devant. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que quand même, eh ben, c'est la défense qui tient cette équipe de France.
Ouais, c'est impressionnant. Tu parlais de Hugo Lloris, 483 minutes d'invincibilité. J'ai trouvé ce chiffre sur le compte Twitter de Sélection A, qui a des petites perles comme ça. Et c'est la 10e période d'invincibilité dans l'histoire de l'équipe de France. Et bon, c'est la meilleure de Lloris, tout simplement. Et c'est vrai que c'est étonnant d'arriver aussi tard, plus de 120 sélections, à ce nombre-là. Et c'est vrai qu'il a pris beaucoup de buts, Lloris, jusqu'ici. Mais là, depuis 5 matchs, eh ben, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui rentre. Alors, les adversaires, ça n'a pas non plus été…
T'as l'Allemagne quand même. Hein.
Oui, voilà. On l'a vu en préparation, Pays de Galles, Bulgarie, ça n'a pas poussé beaucoup, pas poussé très fort. Il y a eu l'Allemagne, mais l'Allemagne, ce qui est impressionnant, c'est justement, c'est presque ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'il n'a pas eu à faire, Hugo Lloris, parce que devant, il est parfaitement défendu par une ligne de 4 qui est aux 3 quarts, celle qui a gagné la Coupe du Monde 2018, puisque Kimpembe a pris la place de Umtiti. Et ce qu'on voit, c'est que ça marche très bien. Et ce qui est marrant, il y a des phrases qui m'ont marqué comme ça dans les conférences de presse d'hier et d'aujourd'hui. C'est Varane qui parlait de la façon dont il avait surveillé Pavard pendant son choc à la tête. Il dit, je le regardais, je parlais à lui. Et ce matin, c'était Lucas qui parlait de Kimpembe. Donc, on a l'impression qu'il y a un quatuor, mais qu'il y a deux pairs, et notamment Kimpembe qui expliquait, enfin, Lucas qui expliquait, pour dire combien Kimpembe est devenu un peu un patron aussi. Il disait, c'est Kim qui me dit, quand est-ce que je dois y aller? Quand est-ce que je dois sortir? Quand est-ce que je dois rester? Donc, on sent qu'il y a des rôles répartis par doublon et par. C'est vraiment une équipe, une défense qui est assez complémentaire dans ses qualités et qui fonctionne bien.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi la métamorphose de Kimpembe. Ouais. À la Coupe du Monde 2018, c'était l'ambianceur, il était là, et il venait avec son enceinte, il chantait, il dansait, tout le monde était content, c'était l'ambianceur de l'équipe de France. Il n'a plus du tout cette image-là, Preston Kimpembe. Il s'est complètement imposé. Pavard aussi, c'est intéressant sa métamorphose parce que. Le match contre l'Allemagne, il va compter parce qu'on voit que c'est un guerrier, on voit que c'est. Il a eu quelques étourderies en équipe de France, il a eu quelques limites parfois et on lui reprochait aussi, alors que le pauvre, il y est pour rien parfois, le manque de concurrence à droite et qu'il était là un petit peu par défaut. Non, il n'est pas là par défaut, Benjamin Pavard. C'est l'arrière droit du Bayern Munich, c'est l'arrière droit des champions du monde et il a montré face à l'Allemagne, dans le match le plus important des 3 dernières années, eh ben, qu'on pouvait compter sur lui. Sur Varane et sur Lucas Hernandez, il y avait un peu moins d'incertitude. Mais Varane, malgré tout, il est en train de. Enfin, il est redevenu en un claquement de doigts en équipe de France, le Varane de la Coupe du Monde 2018. Et si ça continue comme ça, il ne peut pas lui arriver grand-chose à cette équipe de France. Varane avait été géant en Russie. Il est déjà immense en Allemagne. Alors on verra comment ça se passe par la suite. Mais on voit que là aussi, il y a eu une métamorphose. Parfois, Varane en équipe de France, sur certains matchs, je le trouve un peu facile. Je le trouve un peu. Un peu, il n'est pas toujours irréprochable. En revanche, en grande compétition, c'est assez fou.
Ouais, c'est assez fou et c'est impressionnant, comme tu dis, parce que il y avait une montée en puissance en Coupe du Monde, évidemment, avec ce sommet contre la Belgique. Et là, c'est dès le premier match où il fait une véritable masterclass derrière. Et on en a parlé tout à l'heure des débuts de tournoi de 2000, mais il y a quelque chose. Alors, je ne pense pas qu'elle ait la force collective, et je suis même sûr qu'elle n'a pas la force collective de Lizarazu, Thuram, Blanc et Dessailly. Mais à force de les voir jouer ensemble, à force de les connaître, à force de les sentir ensemble, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se construit très fort. Et ce qui était impressionnant aussi face à la Mat, c'est ce côté... ce n'était pas le problème de perdre un ballon. Il y a quelqu'un qui perdait un ballon. Il y avait toujours quelqu'un pour attraper l'autre derrière. Donc, il y a aussi cette cohésion qui est assez formidable et qui va permettre, a priori, aux Bleus d'aller loin. Et on souhaite bon courage aux attaquants hongrois, voire même aux Portugais d'ici une semaine. Je crois que c'est le moment.
Alors là, c'est, le moment que je préfère. C'est le moment que
je préfère. Je préfère ce moment.
Voilà, c'est mon moment préféré. Mais,
il est culotté.
Mais je suis culotté. Maxime, on est nuls tous les deux.
Alors,
Il a deux points et demi plus que moi. Alors, parce qu'il a mis la Russie, je ne sais pas quoi. Bon, on va se calmer. Déjà, on est nuls tous les deux.
Déjà, on va remettre les choses au point. Parce que quand même, on rigole beaucoup. On rigole, on dit oui, ils sont nuls, etc. Mais comme je le répète, nous, les matchs, on ne les voit pas beaucoup parce qu'on bosse sur l'équipe de France et c'était du temps plein. C'est pas quoi. Là, on est au soleil, mais on n'est pas là pour bronzer. J'ai quand même demandé à nos amis de la rédaction, parce qu'à Paris, qui jouent aussi et qui sont dans la Ligue, eux, ils sont plus discrets, on ne les voit pas. Mais ils, ils n'en sont pas moins nuls que nous.
Il y a Cadrien qui
j'ai demandé le score. Je l'ai dit au hasard, avant le match de tout à l'heure, Louis Gilles, notre alternant, qui a le temps de mater du foot toute la journée.
Ah bah oui.
Ça, c'est à cet âge-là, tu regardes du foot toute la journée. Louis Gilles, 85 points. Donc, 85 points, on se demande même s'il a parié.
Si c'est possible. Oui,
si c'est possible, techniquement. On a eu aussi Cyril Morin. Cyril Morin, Tour d'Europe, Tour d'Euro pour la compétition. Donc, le mec…
Four d'Euro.
Voilà.
C'est le four d'Euro.
Il regarde les autres matchs. Le mec, il connaît tout. Tac, tac, tac. Il va analyser. Résultat.
Je ne sais pas. Mais
je crois qu'il était 110 points. Truc comme ça. Je crois qu'il était même derrière toi.
Non, il était derrière moi. Il était même derrière moi.
Même derrière toi.
Ne manque pas de respect.
Arthur Merle, un peu mieux.
Un peu mieux, un peu mieux.
152 points.
Et Adrien qui réalise cette émission qui est pour le moment
la meilleure. Alors, il a combien, Adrien ?
Il a
200.
Il a 200 points.
Points.
Il a 200 points.
Ouais, enfin, cela dit, c'est ce qu'il dit parce que j'ai pas vu.
Voilà. Et bon. Voilà. Alors, les pronos pour.
Il nous montre, oui, à 200 points.
Les pronos pour les matchs de vendredi. Là, il serait temps de se refaire, Maxime.
Ah, mais surtout toi !
Maxime, arrête. On est tous les deux ridicules. Donc, il serait temps de se refaire.
Ah, mais
donc,
j'ai pas parié encore.
Tu les as, les pronos ou pas ?
Je les ai, mais j'ai pas parié.
Alors, vas-y. Alors là, moi, j'annonce en exclusivité mondiale que je joue mon x2 demain sur la Slovaquie face à la Suède. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi. Ouais. Je joue mon x2 sur la Slovaquie face à la Suède sur une victoire de la Slovaquie.
Combien ? Il faut donner le score parce qu'il ne donne jamais les scores. Il échange après.
1-0.
1-0.
1-0. Et je joue mon x2, hein. X2, hein, les gars.
Je mets match nul, moi. Suède-Slovaquie.
Ok. Croatie-République tchèque.
Match nul 1-1. Croatie-République tchèque, je vais aussi opter pour le match nul, mais un match nul avec des buts 2-2.
Moi, je mets un petit 1-0 pour la Croatie. Et on a Angleterre-Écosse.
Et puis Angleterre-Écosse, ça, c'est un à voir. C'est fantastique. Dommage que Wembley puisse pas être plein.
4-0 Angleterre.
4-0 Angleterre, moi, je mets 3-0 Angleterre.
Voilà.
Triplé d'Harry Kane.
De toute façon, si vous avez fait les économies pour le petit, pour ses études quand il aura 18 ans, faites-moi confiance. Vous mettez tout sur la Slovaquie face à l'Ukraine. Le x2.
Non, la Slovaquie face à la Suède.
Face à la Suède.
Le mec, c'est toi, ouais.
C'est même pas comme qui joue. Vous mettez le x2 sur la Slovaquie. Je sens la Slovaquie demain. Je la sens, mais comme jamais. Je ne m'explique pas pourquoi. J'ai été touché par la grâce sur ce. Voilà. J'en ai qu'un sur le premier tour, mais c'est celui-ci. J'ai été touché par la grâce. Slovaquie, Suède. Allez, hop.
Ouais, et si on peut finir, courage, Jean-Louis. Hein, 85 points.
C'est chaud. On vous remercie d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. On vous rappelle le podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur eurosport.fr. Et vous êtes en moyenne entre 30 et 50 000 à
moyenne,
nous écouter.
40 000.
Ça, il est bon. Hein. Alors, t'es pas bon au prono,
ouais.
Mais en maths, t'es bon.
En probabilité, je suis pas mal.
Donc voilà, vous êtes en moyenne 40 000 à nous suivre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein, 40 000 pour un podcast. Et puis sinon, vous nous retrouvez évidemment sur Facebook. Vous nous retrouvez sur eurosport.fr. Maxime, vous le retrouvez aussi sur Tinder Budapest. voilà.
T'es un homme marié, moi.
Oui, t'es un homme marié, mais à Budapest, tu l'as enlevé. Hein. Quand t'as passé la frontière, tu l'as enlevé, ton alliance, Maxime.
Je suis obligé de montrer. Hein, parce que là, sinon, je vais avoir des gros
problèmes. Tu l'as enlevé, ton alliance, Maxime. Donc, voilà. Maxime, beau gosse du Val d'Oise. Si vous voulez retrouver Maxime à Budapest, voilà, c'est ça son pseudo Tinder. Et il a mis une photo de moi pour pouvoir avoir un peu plus de succès. Voilà. On se retrouve demain. Adrien, merci. Quentin, merci. Maxime, merci.
Et merci
la Hongrie,
merci
la vie, merci Budapest,
merci la fan zone parce qu'il y a plein de trucs à manger, c'est formidable
et c'est gratuit. Ciao.
Salut.